Bonjour et bienvenue sur Escapade en Garrigue, l'émission du collectif des Garrigues sur Radio Escapade. Nous allons aujourd'hui parler de ce qui se mange en Garrigue. En effet, en Garrigue, de nombreuses plantes nous offrent des plaisirs gustatifs à ceux qui savent les reconnaître. Et c'est particulièrement à l'automne que nous pouvons en trouver. Donc pour parler de ce sujet, nous avons comme invité aujourd'hui Thibaut Suisse de l'association des écologistes de Lezière. Thibaut, bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que déjà on peut commencer par mieux te connaître et mieux connaître l'association des écologistes de Lezière ?
Donc l'association Les écologistes de Lezière, c'est une association qui est assez ancienne, qui date de 1974 en tant qu'association, et qui a été créée par des professeurs de l'université de Montpellier pour emmener leurs élèves découvrir la nature et découvrir l'écologie, donc le fonctionnement des milieux naturels, mais pas dans les livres, sur le terrain. Et donc depuis 1974, il y a eu beaucoup d'évolutions. Et il y a eu pas mal de développement de cette structure, avec au départ énormément d'animation, ce qu'on continue toujours à faire, mais on a développé aussi de la formation, de l'assistance pour des projets d'aménagement du territoire, de la formation, je l'ai déjà dit, je pense.
Non.
Et voilà, plein d'autres choses.
Des éditions aussi, puisqu'on voit pas mal de bouquins des écologistes de Lezière. D'ailleurs, un qui nous fait, qui parle un peu de ce sujet de ce soir, c'est celui sur les salades sauvages qu'on a déjà vu sûrement dans les librairies, les bonnes librairies de la région. Tu parlais de tout ce qui était animation au niveau des écologistes de Lezière. Donc c'est de l'animation auprès de quel type de public ?
À peu près tous les types de publics. Donc on travaille avec des enfants en milieu scolaire, avec des enfants hors milieu scolaire. Le mercredi après-midi, on a un club connaître et protéger la nature, et en été on fait des camps d'accueil en Marjoride.
D'accord.
On travaille aussi avec des adultes et puis ce qu'on appelle le grand public, c'est-à-dire les sorties du week-end famille entière.
Alors je pose une question que sûrement vous avez déjà dû entendre. Alors écologiste, ça fait toujours parler, mais il me semble que c'est plus en rapport avec l'écologie scientifique. Qu'est-ce que c'est que l'écologie scientifique ?
Donc l'écologie scientifique, c'est la compréhension des fonctionnements des milieux naturels, c'est-à-dire comment est-ce que les plantes poussent à un endroit, comment est-ce que les animaux vivent dans ce même endroit et quelles sont les relations entre toutes ces choses-là, entre le milieu physique, donc la météo, le sol, le climat, les organismes vivants qui occupent ce milieu et les relations, les interrelations entre tout ça.
D'accord. Et du coup, l'homme fait partie des animaux dans cette approche-là. J'imagine qu'aussi, ce qui est des relations entre l'homme et son milieu, vous le prenez aussi en compte ?
Absolument. On ne pourrait pas faire autrement, puisque l'homme, d'abord, est un animal, donc il participe à la faune des milieux. Mais en plus de ça, c'est un animal qui a des moyens de modification des milieux absolument gigantesque, et tout ce qu'on voit à l'heure actuelle autour de nous, que ce soit les forêts, même si elles semblent extrêmement naturelles, que ce soit les lacs, les étangs, les garrigues, tout ça est en fait issu de l'activité humaine, en tout cas dans nos régions.
D'accord. Et du coup, on va justement aujourd'hui parler d'une relation particulière entre l'homme et son milieu, c'est tout simplement avec ces plantes qui se mangent. Alors, il y a plusieurs grands types de plantes qui se consomment, notamment dans notre région, notamment dans nos garrigues. Thibaut, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces différentes grandes catégories de plantes comestibles ?
Alors, parmi les plantes comestibles, en fait, comestible, ça veut dire qui peut être mangé. Donc, dans ce qui peut être mangé, il y a tout ce qui ne tue pas, mais qui n'a pas forcément d'intérêt gustatif. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, la nourriture de disette. C'est-à-dire que ce sont des plantes qui, plus ou moins bien détoxifiées, par exemple les glandes de chêne, si on mange un gland de chêne, il va nous tanner les intestins et on risque d'avoir des coliques ou voire même dans les cas extrêmes de mourir desséché. Donc c'est pas terrible. Mais en temps de disette, les glandes de chêne sont cuisinées avec des processus de torréfaction ou de bouillage dans plusieurs eaux différentes pour pouvoir être consommé, pour enlever les tanins et pour pouvoir être consommé. Mais ce n'est pas quelque chose qui a un intérêt gustatif particulier. Donc,
c'est du comestible, mais bon.
Voilà, exactement.
En
c'est
cas de...
comestible, mais bon. Mais pas bon. Et à côté de ça, on a les plantes qui ont vraiment un intérêt culinaire. Et dans ce cas-là, il y a plutôt trois grandes catégories. Il y a ce qui est du condiment, c'est-à-dire le thym, le romarin, la roquette, la moutarde, qui sont des plantes qui ont des parfums souvent très forts, poivrés, amers, voilà, avec des notes qui pourraient être en grande quantité désagréables et qui d'ailleurs se consomment pas en grande quantité souvent parce que elles pourraient même être à la limite toxiques en grande quantité, mais qui en petite quantité soulignent le goût, développent les arômes, rajoutent de l'arôme, donc ont une vraie valeur par rapport à ça.
Et ça, on en trouve particulièrement dans les garrigues, non ?
Oui, tout à fait. Toutes les herbes de Provence, comme on dit, avec du croquis se décarcasse, et ben, tout ça, c'est des plantes de garrigues. La roquette, c'est aussi une plante plutôt méditerranéenne. Enfin, les roquettes que nous, on mange, sont plutôt méditerranéennes. Voilà, donc là-dessus, on a plutôt un gros avantage à être en garrigue.
D'accord. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres catégories aussi de plantes comestibles ?
Donc, ensuite, on a les plantes qui peuvent se manger crues. Celles-là sont les plantes, en fait, les plus fines de toutes en termes de qualité gustative. Et ce sont les salades sauvages. Et la dernière catégorie, ce sont les plantes qu'on mange plutôt cuites. Donc, soit c'est une catégorie à part entière, c'est-à-dire qu'il y a certaines plantes qu'on ne mange que cuites, soit c'est un stade, c'est-à-dire que la plupart des salades sauvages, quand elles deviennent un peu trop vieilles, un peu trop amères, on les passe en bourbouillade, c'est-à-dire qu'on les fait cuire ou on en fait de la soupe ou des hachis ou des choses comme ça.
D'accord. Alors, on va se faire une petite pause musicale avec Papa Chagis. Donc on est toujours sur Escapade en Garrigue, l'émission du collectif des Garrigues sur Radio Escapade. Alors Thibaut, aujourd'hui on parle des plantes comestibles en Garrigue. Alors où est-ce qu'on les trouve ces plantes ?
Alors on peut les trouver à peu près partout. Alors il y a bien sûr des zones préférentielles, c'est-à-dire qu'en fonction du type de milieu dans lequel on se trouve, on a une plus ou moins grande abondance. En garrigue proprement dite, donc dans les milieux très très secs et rocailleux, c'est pas là qu'on va avoir la plus grande abondance, donc on va avoir des plantes très typées comme les plantes aromatiques, dont on parlait tout à l'heure, mais en termes de diversité d'espèces pour ce qui se mange, ça va pas être le plus facile.
Alors plantes aromatiques,
Le thym, le romarin, la sarriette, la rue, qui était utilisée aussi, qui l'est moins maintenant, mais qui était utilisée.
D'accord. Voilà.
Et par contre, de la même manière, des plantes qui étaient utilisées avant et qu'on va moins utiliser maintenant, c'est les plantes qui poussent aux alentours des maisons. Donc par exemple, il y a la pariétaire d'Imurail, qui n'est pas une comestible, qui est une utilitaire, mais qui est une espèce de petite ortie qui pousse sur les vieux murs et qui aime beaucoup l'azote. Donc elle pousse notamment très facilement là où les chiens lèvent la patte. C'est pour ça que maintenant on l'utilise moins, parce que les milieux très proches de l'homme étant de plus en plus pollués par les gaz d'échappement, etc., les plantes en deviennent moins utilisables.
D'accord.
Mais donc là, il y a aussi le kénopode blanc. D'accord. Qui est une petite plante de la famille des épinards. Ouais. Et que tous les jardiniers connaissent, même s'ils connaissent pas son nom, puisque dès qu'on va gratter la terre, cette plante qui fait des milliers de graines, voire des milliards de graines, va sortir, lever et faire un petit semis de petits épinards qui sont tout à fait comestibles et même très bons, mais qu'on mange assez peu par faute de connaissances ou parce que ils poussent là encore sur les terrains vagues, sur les endroits où on n'irait pas récolter des plantes pour les manger.
D'accord. Donc c'est toutes ces zones proches des villages sur lesquelles on a des plantes qui ont finalement une grande utilité, mais qui sont aujourd'hui de moins en moins utilisées, quoi. Hein,
oui, et utilisables.
Et utilisables, voilà. Tout à fait.
Et par contre, après, un endroit où on va trouver beaucoup, beaucoup d'espèces et où les modes d'agriculture qui retournent vers du bio, vers des choses comme ça, vont être aussi favorables à la récolte, c'est tout ce qui est champs, talus de champs, friches. Et là-dessus, on a beaucoup, beaucoup d'espèces qui vont pouvoir être mangées, notamment parmi les salades sauvages.
Voilà. D'accord. Alors, les salades sauvages, quel type, c'est quoi ce qu'on appelle les salades sauvages ?
Donc, l'exemple le plus parlant, pour expliquer à quelqu'un qui a jamais collecté ce que c'est qu'une salade sauvage, c'est de parler du mesclun. Le mesclun qu'on trouve à l'origine plutôt sur les marchés autour de Nice et qui maintenant se trouve en sachet plastique dans tous les supermarchés, c'est pratiquement que des salades qui sont les salades collectées comme salades sauvages et qui là ont été mises en culture. Donc on va trouver de la roquette, on va trouver de la betterave sauvage, on va trouver de la pimprenelle, on va trouver tout un tas de petites plantes qui sont autour de la famille du pissenlit, donc bien entendu le pissenlit, le laiteron, la terre grêpe, toutes ces plantes qu'on appelle des composés, parce que la fleur, qui est le type de la fleur du pissenlit, et en fait un regroupement de plein de petites fleurs.
Et pourquoi les trouve-t-on particulièrement dans ces zones de champs, de friches ?
Alors, d'une part parce que ce sont des zones qui sont remuées, et que ces plantes-là sont beaucoup des annuelles ou des pluriannuelles, mais plutôt bisannuelles, ou qui ne durent pas longtemps en fait, qui durent quelques années. Et d'accord. Qui ensuite vont disparaître dès que la végétation va se pérenniser, se densifier.
En gros, ce sont des espèces qui en fait profitent d'un milieu qui a été complètement modifié, et du coup, on peut dire, c'est un peu les premières espèces à s'installer quand le milieu se modifie, c'est ça ?
Voilà, ce sont les espèces qui accompagnent les cultures, et du fait que les cultures modifient, enfin perturbent le sol régulièrement, la charrue quand elle passe, elle retourne le sol, et d'autre part du fait que ça apporte aussi, les cultures apportent aussi une richesse en termes de nutriments, de nourriture pour les plantes avec les engrais, avec là encore le travail du sol, et que ça favorise des espèces qui ont besoin de beaucoup de nourriture.
Mais est-ce que ces espèces viennent-elles pas en concurrence avec les plantes cultivées en tant que telles?
Alors là, c'est un débat agronomique. Moi, je suis plus fort sur les débats gastronomiques, donc je ne sais pas trop répondre. Ce que je peux dire, c'est que c'est des espèces qui ont longtemps été éradiquées des cultures par les produits phytosanitaires. Donc probablement que pour un agronome, la réponse est oui.
Oui, mais justement, si c'est assez important ce point-là, parce que souvent on se dit, à la fois, il y a des espèces qui se mangent, mais en même temps, vaut mieux faire attention aussi où est-ce qu'on les ramasse.
Tout à fait, oui. Donc là, c'est pour ça que faut, en général, un collecteur de salade ou un collecteur de plantes, c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien le milieu dans lequel il vit. Et il collecte là où il vit, c'est-à-dire qu'il va dans les endroits où il se promène tous les jours et qu'il ramasse dans ces endroits. Ce qui veut dire aussi qu'il sait au fil des saisons à quel endroit il va pouvoir trouver telle espèce dans un état qui est consommable. Donc il a une connaissance très très fine de son territoire à ce niveau-là, mais il va connaître aussi les modes de culture sur ce territoire et il va pouvoir choisir à quel endroit il récolte pour s'éviter des risques sanitaires.
Et effectivement, on voit que les évolutions, notamment dans la culture de la vigne, dans notre région qui est importante, sont assez favorables finalement, puisqu'on voit, en tout cas, on touche du bois, mais plutôt une évolution vers de la culture bio, un enherbement des vignes voulu aussi, et qui est plutôt intéressant justement pour les collecteurs.
Tout à fait, oui.
Et donc on a parlé des plantes qu'on trouve dans les zones de garrigue, des plantes qu'on trouve autour des villages, des plantes qu'on trouve dans les champs et dans les friches. Est-ce qu'il y a d'autres types de milieux ?
Oui, alors il y a aussi dans les champs, on a tout ce qui est bordure de champs, que ce soit les linéaires de haies. Alors c'est pas quelque chose qui est extrêmement répandu dans la région, mais on en a quand même. Les bords de ruisseaux. Et puis ensuite, il y a les plantes qu'on trouve carrément dans les milieux forestiers. Par exemple, il y a une petite fleur jaune qui s'appelle la benoîte urbaine. Urbain, c'est mal choisi puisqu'elle pousse vraiment en forêt. mais c'est une petite plante dont les racines ont vraiment une odeur de clou de girofle, très très fine, cette odeur. Et qui, du coup, alors ça ressemble à de la filasse, ça donne pas envie de les manger. D'ailleurs, on ne mange pas les racines, mais on s'en sert comme condiment. D'accord. Donc, en ramassant cette plante, on la frotte pour en enlever toute la terre, on lave bien les racines, on hache les racines et on les ajoute à un civet, par exemple, où ça va très très bien sur les viandes blanches comme le lapin ou le poulet. Dans des sauces pour ces viandes-là, ça ajoute un parfum vraiment très très fin et très très bon.
D'accord. Et du coup, on disait en introduction que l'automne était une bonne saison pour trouver des plantes comestibles dans notre région, dans nos garrigues. Pourquoi l'automne ?
Alors, c'est pas la seule saison, mais c'est vrai que c'est une très bonne saison pour, surtout en garrigue, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les garrigues se trouvent sur le bord de la mer Méditerranée. Et que c'est à l'automne que les oiseaux qui sont nés dans les contrées plus nordiques redescendent vers la mer Méditerranée pour la franchir et pour aller passer l'hiver dans les contrées chaudes africaines. Et donc avant de faire ce grand saut de la mer Méditerranée, les oiseaux doivent faire des réserves et donc se nourrir. Donc on a en région méditerranéenne beaucoup de fruits automnaux. Ils ne sont pas tous comestibles, loin de là, mais il y en a certains qui sont très très bons.
Je ne comprends pas le rapport entre l'oiseau et le fruit.
Donc l'oiseau, en fait, pour pouvoir passer la mer Méditerranée, va devoir beaucoup manger pour faire beaucoup de graisse. Et donc, il va consommer beaucoup de fruits.
Donc, les plantes se sont adaptées justement à cette arrivée de...
Voilà, donc Les plantes, oui, se sont adaptées à l'arrivée de ces oiseaux, en faisant en sorte qu'il y ait beaucoup de... Enfin, faisant en sorte, c'est assez mal dit, mais le résultat est qu'il y a beaucoup de fruits à l'automne, ce qui fait que d'une part, les oiseaux trouvent beaucoup de nourriture, mais par le même fonctionnement, ils vont disséminer beaucoup de graines de ces fruits, et donc ça profite aussi à la plante.
D'accord, ok. Alors,
Et
on a quelques exemples là de...
alors oui, dans les exemples, on a le sureau dont on pourra parler un peu plus tard, qui est très très bon, une très bonne plante. Et puis on a le pistachier lentisque. Donc
D'accord.
des pistachiers, on connaît le pistachier qui donne les pistaches, mais qui ne pousse pas naturellement dans nos régions. Et on a dans nos régions deux pistachiers, le pistachier térébinthe, qui fait de grandes feuilles composées et qui les feuilles tombent en hiver. Et
D'accord.
en froissant ces feuilles, ça sent vraiment l'essence de térébenthine.
D'accord.
Donc lui n'est pas utilisable. Et par contre, dans les parties les plus chaudes, dans les garrigues les plus chaudes, en fait, on a un autre petit buisson, le pistachier lentisque, dont les baies peuvent servir de condiment. Donc moi je m'en sers en les faisant un petit peu sécher naturellement au soleil, enfin à la chaleur naturelle, et je les broie et ensuite je m'en sers comme du poivre ou comme des baies roses, par exemple sur un fromage de chèvre.
D'accord. Et donc, du coup, l'automne, donc, c'est intéressant par rapport, on l'a vu, à cette migration d'oiseaux qui, du coup, viennent se nourrir de tout un tas de baies et de fruits qui vont trouver ici sur le bord de la Méditerranée. Peut-être aussi le climat particulier de cette région-là favorise aussi cette production automnale.
Tout à fait. La grande particularité du climat méditerranéen, c'est d'avoir non pas une mauvaise période en hiver, mais plutôt une mauvaise période en été. C'est-à-dire que dans tous les livres d'école, on nous raconte que l'hiver est la saison morte et que la végétation rentre dans le sol et disparaît. En fait, en région méditerranéenne, on est plutôt dans le cas inverse. C'est-à-dire que c'est l'été, avec la très grande sécheresse estivale, que les plantes sont au stade pause. Et avec les pluies d'automne, qu'on a eu très très fortes cette année, on a un redéploiement de la végétation, un reverdissement. Et ensuite, l'hiver, qui est relativement doux dans nos régions, permet d'avoir quand même, donc jusqu'en novembre et puis à partir de janvier, on a régulièrement des journées où il fait plus de 10 degrés, où le soleil tape, il y a de l'eau et des températures assez douces, et c'est tout ce qu'il faut pour que les plantes se développent. Donc on a beaucoup de plantes en région méditerranéenne, y compris de plantes comestibles, qui sont vives et bonne à manger en hiver. Donc pour en ce moment, par exemple, toutes les salades sauvages sont en train de ressortir et vont être sont déjà très très bonnes à manger.
D'accord.
L'autre exemple de plante hivernale vraiment typique de la région méditerranéenne qui se mange que en hiver, c'est le poireau des vignes, que
D'accord.
tout le monde ramasse, que tout le monde connaît, et qui est vraiment présent que l'hiver.
D'accord. Alors on va se faire une petite pause musicale et on va revenir sur ce sujet.
Laissez leurs chaussures au bas des murs. T'en es parti.
C'était les Bohémiens de Catherine Ringer. Alors, on est toujours sur Escapade en Garrigue, sur Radio Escapade, pour parler des plantes comestibles dans notre région, avec Thibaut Suisse de l'Association des écologistes de Lezières. Alors Thibaut, est-ce que tu pourrais nous présenter quelques plantes qui se mangent et leur utilisation ?
Alors, on va commencer par une plante assez commune et assez connue aussi, c'est la sarriette. Donc la sarriette, c'est une petite plante de la même famille que le thym, une labiée, qui a des feuilles assez longues et en ce moment qui sont en train de sécher et de devenir piquantes. C'est une plante qui pousse en touffe dans des endroits très très caillouteux. Donc on la trouve particulièrement dans la région sur des lits de torrents asséchés, donc dans la plupart des cours d'eau de garrigue. Vraiment dans l'endroit où il y a les grosses pierres qui s'accumulent. Et donc, elle, c'est le pèbre d'Az, donc le poivre des ânes en occitan, qui est, ce nom est dû à sa saveur vraiment très poivrée, très forte, mais qui est en même temps très très bonne. Donc, c'est une plante qui se mange plutôt de manière condimentaire. On n'en fait pas des salades, heureusement. Ouais. Et donc, elle est très, très bien pour assaisonner l'agneau, par exemple, en grillade. Vu qu'elle est très, très forte, elle va bien avec des viandes un peu fortes. Et puis, elle est aussi très, très bonne en tisane ou en aromatisant tout à l'heure je vous parlais de la baie de pistachier que je mettais sur le fromage de chèvre. On peut faire la même chose en fait, même en mélangeant les deux, en prenant un fromage de chèvre très très frais, oui, qu'on va assaisonner avec soit juste de la sarriette, soit de la sarriette et du pistachier, et qu'on va recouvrir d'huile pour faire mariner, puis qui se conserve un peu plus longtemps. Et on en mange un petit bout tous les jours, et ça tient autour d'une semaine, 15 jours. Et c'est très très bon.
Donc un bon pélardon là du coin, voilà, avec de l'huile et de la sarriette.
De l'huile d'olive et voilà, de la sarriette, et c'est fantastique.
D'accord. Un autre exemple ?
Alors si on change un petit peu de milieu, là on était en garrigue, on va passer sur les bords de bois, les bords de haies, les endroits avec des sols un peu plus profonds, voire même dans les vieux hameaux, les bords de hameaux avec les vieux murs en ruine. Et là on va trouver le sureau. Donc le sureau, c'est un arbre qui est fantastique, qui a beaucoup beaucoup d'utilité possible. Alors c'est pas du culinaire, mais presque. On en fait le sureau a un bois qui est creux, c'est-à-dire que le bord, c'est du bois qui est assez relativement dur, et le centre est composé d'une moelle qui ressemble un petit peu à du polystyrène, et donc qui se creuse assez facilement. Et on peut du coup, en récupérant une vieille branche de sureau, faire le bouffadou pour attiser le feu, pour attiser le barbecue.
D'accord.
Et ensuite, en termes de plantes, enfin de comment manger le sureau, il y a bien sûr au printemps les fleurs de sureau qui sont délicieuses, mais là, à l'automne, on a les baies du sureau. Et les baies du sureau sont vraiment des baies qui sont délicieuses en confiture ou en confit, voire sur des viandes rouges, ou en tartelettes. Alors, il y a deux petites précautions. La première précaution, c'est de bien prendre le sureau qui est en arbre. C'est parce qu'on a un petit sureau qui s'appelle le sureau yable, qui est une plante dont la partie aérienne est annuelle. C'est-à-dire que tous les ans, souvent on le voit d'ailleurs en bord de route, il se fait faucher tous les ans. Tous les ans, la partie aérienne pousse et tous les ans, elle meurt. D'accord. Donc, quand on a un... Et ce sureau-là n'est pas comestible.
D'accord.
Donc, si pour prendre les baies de sureau, vraiment les cueillir sur un arbre, à partir du moment où on est sur un arbre, il n'y a pas de problème.
S'assurer qu'il y a bien du bois.
Voilà, qu'il y a bien du bois, et là, c'est bon. Et la deuxième petite précaution, c'est de faire cuire ces baies-là. Crues, elles sont pas terribles, légèrement toxiques, pas dangereuses, mais elles pourraient mettre des personnes mal à l'aise. Ces deux précautions mises à part, Donc, c'est-à-dire en faisant cuire les baies qu'on a récoltées sur un arbre, ça devient quelque chose d'absolument délicieux. Et donc, il y a une recette qui est très très simple à faire, c'est de faire une petite pâte sablée, donc de la farine, du beurre et un œuf, même juste le jaune d'œuf, qu'on mélange, une touche de sel si on est... Pour, si on n'est pas breton et qu'on ne met pas du beurre salé, une petite touche de sel. Et avec un verre, on découpe, ou avec un emporte-pièce, on découpe des petits ronds de pâte sablée.
D'accord.
Et là-dessus, on va juste déposer des baies de sureau et un petit peu de sucre. Et on passe ça au four et juste le temps de cuire la pâte. Et tout cuit et ça fait des petites tartelettes au sureau qui ont pris 10 minutes à préparer et qui sont absolument délicieuses.
D'accord, mais ça donne envie en tout cas. Et du coup, le sureau, pour, donc, on le trouve effectivement plutôt en bord de talus, en bord de rivière éventuellement.
Oui, alors lui, c'est une plante qu'on dit nitrophile parce que justement, elle aime bien l'azote, elle aime bien les sols riches.
D'accord.
Et les sols un peu frais. Donc on va le trouver soit tout près de l'homme, parce que l'homme, naturellement, même quand il vivait dans des grottes, a des activités qui font qu'il enrichit les milieux autour de lui. Donc très près des hameaux, très près des villages, même il pousse dans les anciennes constructions abandonnées.
D'accord.
Et puis sinon, sur les haies, sur les pieds de falaise, sur les endroits avec un sol un peu profond, les bords de cours d'eau aussi dans certains endroits.
D'accord. Le cormier.
Cormier,
qu'est-ce que c'est ?
Alors ça, c'est un très bel arbre qui a plusieurs noms. Donc on l'appelle cormier, on l'appelle aussi sorbier. Donc c'est un arbre de la famille du pommier, du poirier, et qui fait des fruits qui ressemblent un petit peu, selon les arbres, soit à des petites pommes, soit à des petites poires. La différence principale, c'est que lui, ses feuilles sont des feuilles découpées, donc un petit peu comme les feuilles du frêne, mais avec les bords très 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 dentés.
D'accord.
Et donc, il fait des très jolies fleurs qui sentent le miel au printemps, mais qu'on n'utilise pas. Par contre, en ce moment, les cormes commencent à être mûres. Donc la corme, c'est un fruit qu'on va manger blette, c'est-à-dire... en gros pourri. Donc on va attendre que la chair se disloque et là on peut la manger. Mais on peut aussi la faire mariner dans de l'alcool avec un petit peu de sucre. Et là ça fait une eau de vie qui est très très bonne.
D'accord, voilà. L'eau de vie de corme.
Voilà, l'eau de vie de corme qui n'est pas issue d'une distillation, contrairement qui est plus qu'une eau de vie parfumée à la
D'accord.
corme.
Voilà. Okay. Et le cormier, ça se trouve où du coup ?
Alors le cormier, c'est comme beaucoup d'arbres dans la région, c'est des arbres qui sont spontanés, donc on va trouver dans les milieux forestiers, mais qui ont aussi été beaucoup plantés sur les bords de culture, et donc on retrouve des vieux cormiers en bord de champ.
D'accord.
Par exemple.
Et du coup, si on va plutôt dans un autre type de milieu, dans des zones peut-être un peu plus fraîches, un peu plus humides, est-ce qu'on trouve aussi des plantes qui se mangent ? Est-ce que tu as des exemples ?
Oui, alors là, c'est même peut-être le plus facile, parce que pour ce qui est des plantes qui se mangent, on en a beaucoup en région méditerranéenne, mais il y en a un petit peu partout en France, et notamment les plantes à racines, donc les plantes qui vont vraiment fournir une grande quantité de nourriture pour un petit effort, c'est pas ce qui est le plus facile à trouver dans la région. Nous, on a plutôt des plantes de gourmet qu'on va cueillir petit à petit. Et donc là, on a une plante qui s'appelle la bardane. Donc c'est c'est une des plantes qui a les plus grandes feuilles, des feuilles très très rondes, très très grandes, et qu'on va trouver en bord de cours d'eau. Et elle, c'est principalement les racines. Donc pour la situer, la bardane, c'est une plante aussi qui, à l'automne en ce moment, va faire des pelousses, c'est-à-dire des petits attrape-cheveux, et qui se lancent très très bien dans les cheveux et qui sont une horreur à démêler ensuite. Voilà, donc c'est tous les petits garçons campagnards la connaissent parce que c'est très très bien à lancer. Et donc cette plante-là, elle pousse sur 2 ans, comme les carottes, comme les navets. C'est-à-dire qu'elle va germer au printemps et tout l'été, elle va emmagasiner plein de sucre et plein de choses dans sa racine qui va du coup grossir et devenir charnue et légèrement sucrée. Comme le font les carottes. Et donc, à l'automne, avant que les feuilles ne disparaissent, on peut la collecter. Et elle a l'avantage de faire un bon 5 cm de diamètre avec une profondeur qui peut descendre jusqu'à 1 mètre. Donc, quand on en trouve une belle, eh ben, on a trouvé le repas pour la journée. Et l'avantage aussi qu'elle a, donc cette plante-là, la bardane, c'est un légume qui est cultivé au Japon. D'accord. Et chez nous, c'est une plante sauvage. Au Japon, ils l'appellent le gobo.
D'accord, c'est la même espèce. C'est
la même plante.
D'accord.
Et elle a un avantage, c'est qu'elle a un sucre particulier qui s'appelle l'inuline, qui est un sucre commun à sa famille, c'est-à-dire la famille du topinambour. C'est le même goût qu'on trouve dans le topinambour, dans le salsifis, dans le cœur d'artichaut.
D'accord. Voilà.
Et ce sucre-là est assimilable par les diabétiques. Donc en plus de ça, ça rajoute un avantage à cette plante.
D'accord. Alors on va s'écouter un petit morceau de Chinese Man et on reviendra sur ce sujet.
Like a bear, if there is your way, then you may not be scared. By Selassie again, you're gonna be killed. Another focus on him, let me cherish the fear.
Anybody see the more clear?
Under my keep my brain, get a bit of meaning with my friend. Another man for me, I get this, go to the bar, right off my land. I don't wanna leave it for this, and the government is coming in for me, for your promise. For them, yeah. Who killed the youth in a titan? Who killed the youth in like a crime champion? The church and police and the Caribbean. No change at all for the youth children. And they say, who killed the youth in a titan? Who killed the youth in like a crime champion? The church and police and the Caribbean. No change at all for the youth children.
So I got my banjo out. You sit and catch in dust.
People cry cause they don't find the love. Get them up, up, mid revolution. Me know when other countries to go up. I cannot give them all. Me know when I get shot. People cry cause they don't find the love. Get them up, up, mid revolution. Me know when other countries to go up. What do you prefer?
Experience the world.
See the youth in the end of under the cow. See them in the river.
Experience the struggle.
Washing them hands and try to make things better. What do you prefer?
Experience the world.
See the youth in the end of under the cow. See them in the river.
Experience the struggle.
Just washing them hands and try to make things better.
So I got my banjo out. Sitting, catching dust.
Be trapped and sink like many times.
Painting right across the face.
The human orb.
So I got my banjo out. Sitting, catching dust.
Alright, that is my
name. Painting right across the face. Greenwich visual bus.
You know my name out. Be the same till the day that I'm laid down.
On the mic in my brain, get a video with my friend. On the mic in my brain, get a video with my friend. On the mic for me, I can't let go to the bar, that's my land. I don't wanna live it for listening, the government is forbidden for me for your promise. Well then,
so I got my banjo out.
dust.
These chapters sink like many times.
Painted right across the face. The lineage of medical bust. Folks were sad to see me go. But I
found me in there. Niggas rubbing off my style.
So I said goodbye, Kansas low. And hello, Washington's
world. Look, it's a hammer.
C'était Chinese Man avec Washington Square. On est toujours sur Radio Escapade dans l'émission Escapade en Garrigue avec Thibaut Suisse des écologistes de Lozière. Alors, les écologistes de Lozière organisent un samedi buissonnier, une animation, donc un samedi, le 25 octobre au Mas de Lozière, sur cette thématique des plantes comestibles et même des plantes utiles.
Tout à fait, oui. Donc, on va faire une sortie. Donc, les samedis buissonniers, c'est un rendez-vous une fois par mois qui est ouvert à tous, gratuit, et animé par des bénévoles ou des permanents de l'association. Et donc, tous les mois, on propose entre le Gard, l'Hérault, enfin à proximité en tout cas, une sortie différente sur un thème particulier. Donc là, le thème qu'on a choisi pour ce samedi-ci, enfin le 21 octobre,
25
octobre, c'est les plantes utiles. Donc c'est un petit peu plus large que les plantes comestibles, puisqu'on va parler aussi de tout ce qui est petite manufacture, fabrication d'objets, que ce soit pour de la musique, pour des jeux d'enfants, pour de l'artisanat, pour de la bricole au champ ou à la maison. Voilà, c'est toute l'utilisation des plantes qu'on a autour de nous, et plutôt avec un aspect d'utilisation traditionnelle.
D'accord. Alors du coup, les plantes utiles, là vous allez en présenter plusieurs, j'imagine, lors de ce samedi buissonnier, avec peut-être des exemples de qu'est-ce qu'on peut en faire.
Tout à fait, oui, des exemples, des démonstrations. Alors il y a là encore il y a une infinité de possibilités, et puis on va retrouver certaines plantes dont on a parlé aujourd'hui qui sont comestibles mais qui ont aussi d'autres usages. Le cormier par exemple, qui est un excellent bois d'œuvre, même un bois rare, c'est-à-dire un bois dont les qualités mécaniques et de texture et de couleur en font un bois très 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 prisé par les forestiers.
D'accord. Alors du coup, ce samedi buissonnier, le rendez-vous c'est...
Donc c'est à 14h au Mas de Lozière, au-dessus du Durfort.
Alors, Mas de Lozière, écologiste de Lozière, il y a peut-être un petit rapport là. En tout cas, à l'oreille, on entend quelque chose qui se ressemble. Est-ce qu'il y a effectivement un rapport entre Mas de Lozière et les écologistes de Lozière?
Alors, à l'oreille, on pourrait croire qu'il y a un rapport, et effectivement, il y a un rapport très important et historique pour nous, puisque, en fait, c'est du Mas de Lozière que l'on tire notre nom d'écologiste de Lozière. Puisque je vous ai raconté en tout début de journée, enfin
de l'émission,
qu'on s'appelait les écologistes de Lozière et qu'on était issus de l'université de Montpellier et des professeurs qui emmenaient leurs élèves à l'extérieur pour faire de l'apprentissage. Et en fait, cet extérieur, c'était les abords de Montpellier, mais ça a très vite aussi été, au milieu des années 70, le Mas de Lozière, qui est devenu une sorte de laboratoire de terrain pour ses professeurs et pour ses élèves. Et ensuite, l'association s'est structurée là-bas et a pris le nom d'écologistes de Lozière grâce au Mas de Lozière.
Et Lozière, on sait ce que ça veut dire ?
Donc Lozière, ça veut dire la forêt de chêne vert, ça vient de Lieuse. Voilà. Et le lien qui nous lie avec le Mas est bien sûr pour nous un lien historique, mais c'est un lien qui perdure toujours, puisque à l'époque c'était un centre d'accueil, et c'est toujours un centre d'accueil pour des classes et pour des groupes, que ce soit d'adultes ou d'enfants. avec un terrain de jeu absolument fantastique, très très beau, et une équipe sur place qui est très dynamique. Et donc on travaille régulièrement, à l'heure actuelle encore, avec le MAS de Lezières au niveau d'animation, de classe et de... Voilà, donc c'est une histoire et une histoire qui se continue.
D'accord, donc on retient bien ce samedi 25 octobre à 14h au MAS de Lezières, un samedi buissonnier organisé par l'Association des écologistes de Lezières sur la thématique des plantes utiles, donc à la fois les plantes comestibles, mais toute autre utilisation qu'on peut faire de ces plantes. Thibaut nous racontera plein de choses sur le terrain en nous montrant comment on les reconnaît, qu'est-ce qu'on peut en faire, etc. Donc un rendez-vous, bien évidemment, à ne pas manquer. Et on va finir l'émission sur ce rendez-vous important ce samedi 25 octobre et avec une musique de Max Romeo, Chose Devil.
Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evilous man, but him can't choke sit on I man. So when I check him, my lass in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on a iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on a iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Oh yeah. Shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evilous man, but him can't choke sit on I man. So when I check him, my lass in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to